Une heure en Palestine qui est programmée tous les mercredis de 18h à 19h sur les ondes de Radio Galère et qui est animée par différentes associations de soutien à la Palestine. C'est Sidi qui est la technique. Merci Sidi. Ce soir, c'est Palestine 13 qui vous propose cette émission. Pour Palestine 13, je vous rappelle que si vous désirez avoir des renseignements sur nos activités ou des informations plus générales sur ce qui se passe en Palestine, vous pouvez consulter notre site internet qui est mis à jour quotidiennement, www.assopalestine13.org. Nous renouvelons les articles de ce site et de notre page Facebook chaque jour en essayant d'alterner actualités, documents de fond, pages culturelles, sociales ou sportives. Il faut aussi noter que Palestine 13 est membre du collectif BDS, Boycott des investissements en sanctions, et également du collectif Palestine en résistance, qui regroupe des associations, mouvements, syndicats et partis politiques qui luttent pour la justice en Palestine. Je vous propose quelques points d'actualité culturelle locale avant de passer au sujet de notre émission. D'abord, un film à ne pas manquer, Little Palestine, le journal d'un siège. Ce film est sorti en salle le 12 janvier 22. Il est réalisé par Abdellah Al-Khatib. Il évoque comment, suite à la révolution syrienne, le régime de Bachar el-Assad assiège le quartier de Yarmouk, dans la banlieue de Gaza, de Damas en Syrie, le plus grand camp de réfugiés palestiniens au monde. Yarmouk se retrouve alors isolé et le réalisateur témoigne des privations quotidiennes tout en rendant hommage au courage des enfants et des habitants du quartier. On peut voir ce film au cinéma La Baleine cette semaine et la semaine prochaine et à l'Alhambra la semaine prochaine. Pour vraiment vous donner envie de découvrir ce film et d'emmener vos parents et amis, je vais vous lire deux critiques élogieuses, bien sûr. Dans l'Humanité, Abdallah El-Khatib donne corps à une œuvre qui tient à la fois du film de montage, de documentaires militants et de la chronique familiale, ainsi que de l'œuvre mémorielle. Et dans les Cahiers du cinéma, l'intensité tient précisément à la durée de l'observation à l'aune de la lenteur du temps du siège. Loin de toute exhibition obscène, de la douleur ou de la terreur, le film met en œuvre un art à la fois politique et poétique que plusieurs intermèdes, inspirés, explicites, cherchent du sens dans des détails que tu crains de voir disparaître. Prends une caméra, cherche du sens. Alors un autre événement important, et en lien avec le propos du film, la soirée « Camp de réfugiés palestiniens, un autre bord du monde », ce samedi 29 janvier, de 18h à 20h30 au Théâtre du Merlan. Cet événement est organisé par la Ligue des droits de l'homme et le collectif Palestine en résistance. Il sera précédé le même jour, au même lieu, d'un atelier animé par deux Palestiniennes, dont notre amie Muriel Maudre, avec une vingtaine de jeunes du quartier de 15h30 à 17h30. Ensuite, à 18h, rencontre-débat sur le thème « Camp de réfugiés palestiniens, un autre bord du monde ». Alors pour ce débat, il y aura d'abord Olivia Gay et Muriel Maudre, les plasticiennes, Olivia Gay, une photographe, et François Méret, le coordinateur du projet, qui vous feront partager leur vécu dans les camps de réfugiés en Palestine occupée, ainsi que le travail qu'ils et elles y ont effectué avec des jeunes et des femmes. Il y aura aussi Sarah Cast, sociologue qui a vécu longtemps à Gaza, Christophe Baticle, socio-anthropologue, et Najma Fares, ingénieure et chercheuse. L'entrée de cet événement est libre pour permettre à tous de participer, même si, bien sûr, une participation aux frais de la soirée est bienvenue. On peut aller au Théâtre du Merlin en transport en commun. Vous trouverez tous les détails sur notre site. Alors, cette introduction étant terminée, et en accord avec mon invité, je souhaite dédier cette émission « Une heure en Palestine » sur Radio Galère à Asrad Fayat, un poète palestinien emprisonné depuis 7 ans dans une prison saoudienne. J'ai bien dit en Arabie Saoudite, fille tant aimée de nos dirigeants politiques. Asraf Fayad est accusé d'apostasie, c'est un reniement de la foi. Il a été arrêté le 1er janvier 2014, puis en mai condamné à 4 ans de prison et 800 coups de fouet. Après avoir fait appel de cette peine, il est jugé à nouveau en novembre 2015, il est condamné à mort. À la suite d'une campagne internationale qui réunira plus de 300 000 signatures, sa peine est commuée en 8 ans de prison et 800 coups de fouet. Il lui est également reproché d'avoir publié un recueil de poèmes en 2007, Instruction interne, qui contraindrait des poèmes athées. Marc est mon invité, je le présenterai bientôt. Je vous fais languir, il va vous dire pourquoi ce poète est important. Et Émilie, en attendant, va nous lire deux extraits du poème de Asraf Fayad.
On dit que tu as bon espoir. On dit que tu as bon espoir de réussir à voler, de défier le trône, d'abroger les ablutions de la nuée, d'enfreindre les lois de la création et ce que Dieu a ordonné aux autres oiseaux d'accomplir. Dieu sur son trône, il assure la subsistance à toutes les créatures à plumes qui s'en vont rassasiées alors que tu dois te lever tôt, le ventre creux, pour aller ramasser les immondices dont les gens se sont débarrassés et pour te parfumer avec l'émanation des charognes étalées à perte de vue. Ashraf Fayad, poème traduit de l'arabe Palestine par Abdelatif Lahabi, revue Les Hommes sans épaules, numéro 41, en 2016.
Un deuxième poème, Émilie.
À vous, les errants. Votre errance hante les métropoles. Vous êtes ruinés. Et dans le néant, qui vous ronge de l'intérieur, les voies du salut de vos âmes ont été coupées. Ton sang muet le restera, tant que tu te vanteras de la mort et proclameras en secret que tu as confié ton âme à ceux qui n'y comprennent goutte. La perte de l'âme prendra un temps qui ne suffira pas à apaiser tes yeux, terrorisés d'avoir tant versé de pétrole. Ashraf Fayad, poème extrait de Instruction à l'intérieur, poème traduit de l'arabe Palestine par Abdelatif Lahabi, Le temps des cerises, 2016.
Marc, pourquoi ce poème et ce poète sont importants pour toi ?
D'abord, je voudrais dire que ça m'a fait plaisir de l'entendre, d'entendre ces poèmes qui sortent de la bouche d'Émilie. C'est très bien dit, c'est très beau, c'est très touchant. Je pense que ça suffit déjà pour comprendre pourquoi on peut aimer un tel poète. Hein. Je trouve que c'est l'expression d'une profondeur, c'est l'expression à la fois d'une souffrance, mais en même temps une souffrance qui donne une forme à la vie, qui donne une certaine énergie. Moi, je pense que les poètes, on ne doit pas les toucher. C'est un peu comme l'interdit de l'inceste, quoi. Ça fait partie, je crois, d'une base de la civilisation. Je veux dire, si on touche à un poète, on touche au langage, on touche à ce qui fait qu'un être humain, ben voilà, c'est un corps sensible, intelligent. Et le poète, depuis que l'homme parle, c'est celui qui est capable de frôler la catastrophe et en même temps la beauté des hommes. C'est à la fois celui qui peut nous faire sentir les plus profonds désespoirs de l'humanité, mais aussi des raisons d'espérer. Et je trouve que Ashraf Fayad, il est dans cette lignée. Émilie a précisé, je vous sais bien, le nom du traducteur, parce que Abdelatif Lahabi, c'est pas n'importe qui, c'est un des plus grands poètes, pas pour moi du monde, mais c'est un grand poète marocain, qui a connu aussi la détention, puisque Abdelatif Lahabi, dans sa jeunesse, à l'époque de Hassan II, a été emprisonné pendant plusieurs années. Et c'est aussi grâce à une mobilisation internationale que Lahabi a pu être libéré. La première fois où j'ai rencontré physiquement Abdelatif Lahabi, je l'avais invité au Festival des Instants Vidéo quand nous étions encore à Manosque, je lui racontais que la première fois de ma vie, donc je devais avoir peut-être 16 ou 17 ans, où j'ai signé une pétition, c'était pour sa libération. Je ne savais pas qu'il existait, cet homme. Je me promenais, j'étais allé à Paris, Et je me souviendrai toujours, c'était sur le boulevard Saint-Michel, il y avait un stand avec des jeunes Marocains qui interpellaient les gens dans la rue pour parler de ce poète dont il fallait absolument signer une pétition pour aider à sa libération. Et donc voilà, quoi, pour moi c'était nouveau comme ça. J'avais déjà entendu parler de gens qui étaient en prison, mais je ne savais pas qu'on pouvait mettre des poètes en prison. Donc j'avais signé, et puis ensuite, avec le copain avec qui j'étais, on est allé acheter un livre de Lahabi, et on l'a lu, et ça a été un grand émerveillement. Lahabi, qui a aussi, à l'époque, avait créé une revue qui s'appelle la revue Souffle, qui était une revue culturelle extrêmement importante, très subversive. Je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles il a été emprisonné, et puis ensuite chassé, puisque Lahabi, maintenant, vit en France. Il pourrait aujourd'hui retourner au Maroc, mais en tout cas, tant que Abdellatif Lahabi était... tant que Hassan II était au pouvoir, il ne pouvait pas rentrer. Et la revue Souffle, par exemple, a de suite pris position pour la Palestine. Donc c'est pour Lahabi un combat, j'ai envie de dire, permanent. Non seulement d'écrire des poèmes, mais aussi de lutter pour la liberté partout dans le monde, et aussi évidemment de se battre pour défendre les poètes. En ce moment, malheureusement, je ne pourrais pas en dire beaucoup plus, parce que Abdellatif Lahabi m'a dit qu'il ne fallait pas ébruiter exactement ce qui est en train précisément de se passer, mais il y a un espoir pour sa libération. Il y a un espoir pour sa libération. Il y a un visa qui a été envoyé, le billet d'avion est payé, donc il y a un pays que je ne citerai pas, c'est pas la France, malheureusement. Lahabi a essayé avec ses amis d'interpeller le gouvernement, d'interpeller madame la maire de Paris, candidate aux élections, qui se gausse de défendre les droits de l'homme, etc. Elle a absolument pas bougé non plus pour essayer d'intervenir pour la libération de Achraf Fayad. Donc il y a un autre pays qui est en ce moment en pleine négociation. Peut-être qu'on va apprendre... On a cru que le 12 janvier, il serait libéré. Bon, ça tarde un peu. Peut-être qu'à la fin de l'émission, on va apprendre qu'il est libéré, ce qui serait une très bonne chose, quoi.
Merci, Marc. Alors, nous sommes en janvier, et normalement, j'aurais dû vous souhaiter les vœux. Mais franchement, j'ai reçu des vœux, ceux de Marc, qui étaient tellement beaux, que je vais encore mettre Émilie à contribution. Émilie, vraiment, merci. Elle va nous lire les vœux de Marc, des vœux qu'on rêve de recevoir, des vœux qu'on lit et qu'on relit, qui nous grandissent et qui nous redonnent goût au combat. Après les vœux, on démarre l'émission, promis.
Les vœux du REF pour l'année 2022. Tout le pouvoir à l'imagination créatrice. Alam al-Mittal. N'entrons pas dans cette nouvelle année sans désir d'en découdre avec toutes les injustices, avec tous les briseurs de rêves d'émancipations individuelles et collectives, avec tous les semeurs d'OGM de la pensée qui ne produisent que les fleurs artificielles du désenchantement. Tous les membres du REF en ont conscience. Il n'y aura pas de véritable instauration des droits humains sans fin de l'exploitation, ni de véritable fin de l'exploitation sans instauration des droits humains, quel que soit notre genre, notre couleur de peau, la terre qui nous a vus naître, notre sexualité, nos croyances, nos choix politiques et philosophiques, ou l'état de notre passe sanitaire. Nous vivons une époque où un État qui mène une politique coloniale, Israël, peut désigner 6 ONG palestiniennes comme terroristes, sans que cela froisse la conscience des gouvernements occidentaux qui ne prennent même plus le temps de verser quelques larmes de crocodile pour continuer à commercer avec lui. Nous pouvons vendre inopinément des armes à l'Arabie Saoudite qui, dans une indifférence générale, détient dans ses geôles depuis 2014 le poète Gazaoui Achraf Fayad. Pour avoir fait appel, il reçut 800 coups de fouet. La liberté commerciale et la lutte contre le terrorisme ont bon dos. Exigeons la libération inconditionnelle du poète Achraf Fayad. Et poète, celui qui participe au réenchantement de la vie, celui qui arrache avec ses dents les cordes de toutes les frontières pour en faire des violons, celui qui noie dans les océans les ombres figées des injustices, celui qui crie, celui qui pleure, celui qui dit non, celui qui dresse des barricades d'étoiles pour que nul ne sombre dans l'oubli. Partout, la pensée poétique est mise à mal, lui préférant les crocs sanguinaires de la gestion de nos destinées. Quiconque s'intéresse à l'histoire de notre Méditerranée sait que de tout temps, sa richesse provient d'échanges de savoirs scientifiques et poétiques, considérés comme inextricables. Sans la poésie, les humains sont comme des violons sans cordes, des fruits sans saveur, des politiques sans visée émancipatrice, des exils sans territoire d'asile, des corps sans désir. Cette année sera vraiment nouvelle si nous ne nous contentons pas de faire ce qui est possible, alors qu'avec un petit effort de plus, nous pourrions réaliser l'impossible. Tout le pouvoir à l'imagination créatrice. « Alam al-Mithal », disait l'illustre Ibn Arabi. L'utopie n'est pas la fuite dans l'irréel, c'est l'exploration des possibilités objectives du réel et la lutte pour leur concrétisation. La société civile indépendante des États et des financiers a maintes fois démontré sa capacité à faire bouger des lignes, à ouvrir des perspectives inédites pour un monde plus juste ou un beau jour plus personne n'aura peur. Le REF, grâce à la pluralité et la détermination de ses membres, est résolument engagé dans cette voie. Au nom des membres du REF et de son équipe, je vous souhaite une année résolument déconfinée et désirable. Marc Mercier, président du REF.
Alors maintenant que nous sommes dans l'ambiance poétique et engagée de cette émission, je vais enfin donner la parole à Marc. Alors Marc Mercier, c'est un jeune retraité. Alors je vais quand même vous dire sa conception de la retraite, parce qu'elle est trop belle. Alors la retraite, c'est un passage, alors passage, vers un autre temps, sans battre en retraite. Vagabonder abondamment, ailleurs et autrement, pour que la joie demeure. Je passe la main, dit-il, comme une caresse, c'est un avis de passage. Marc, dis-nous tout. Présente-toi, présente les instants vidéo numériques et poétiques et présente le REF, puisque Émilie vient nous dire les vœux de ce réseau d'Euromède France que tu précises. Marc, à toi.
Si nous n'est possible.
Bon, que d'éloges. Ça faisait sourire d'entendre REF, parce qu'en en fait, on ne le dit jamais comme ça.
Ah, bah,
non, mais c'est pas grave. Nous avons l'habitude de dire le REF, qui veut dire donc le réseau Euromède Méditerranée, qui est donc un réseau, donc c'est une organisation qui regroupe, c'est un réseau qui regroupe des organisations de la société civile installées en France, mais qui ont toutes comme point commun de travailler avec les sociétés civiles du sud de la Méditerranée. Voilà, dans ce réseau, il y a des toutes petites structures comme les instants vidéo que tu viens de citer. Mais il y a aussi des énormes structures comme, je sais pas, il y a la CGT, il y a la Ligue de l'enseignement, Coordination Sud. Voilà, il y a aussi donc des structures comme ça extrêmement grosses. Et c'est une organisation donc qui... travaille donc pour la défense des droits sociaux, des droits humains, des droits culturels et artistiques, qui donc mettent toutes des actions régulièrement. Alors soit c'est les actions des membres qui sont soutenues par le réseau, soit le réseau en s'appuyant aussi sur ses membres qui peut aussi organiser des actions comme régulièrement et sur Marseille, puisqu'on est à Marseille, on a souvent invité des jeunes activistes des pays du sud de la Méditerranée, qu'ils soient de Syrie, de Palestine, de Libye, et qu'on a invité à Marseille pour mener avec nous une réflexion sur les combats à mener pour l'amélioration des conditions d'existence, mais aussi avec des problèmes qui leur sont spécifiques dans leur pays. On, un petit peu à leur demande, on leur fait rencontrer des organisations de la société civile qui travaillent sur Marseille, sur différents sujets, soit qui travaillent en direction de la jeunesse, soit sur des questions de genre, de femmes, sur la liberté d'expression, voilà, etc., etc. Voilà. Et il se trouve que donc ça fait une quinzaine d'années maintenant que les instants vidéo, donc j'étais jusqu'à présent directeur artistique, ont été membres donc du REF, et puis petit à petit, vous savez ce que c'est, hein, on milite de plus en plus, et puis on se retrouve un jour membre du conseil d'administration, puis après on se retrouve dans le bureau, et puis là depuis 3 ans, j'ai cet honneur d'être, mais ça va s'arrêter hein, à un moment donné, mais d'être le président du réseau Euromède France.
Est-ce que tu peux nous dire quand même quelques mots sur toute cette expérience aux instants vidéo poétiques et...
Les instants vidéo, donc c'est un festival qu'on a créé à Troyes, dans une maison des jeunes et de la culture à l'époque, en 1988 à Manosque, avec Chantal Maire et Anne Vandensteen. Donc c'était parti. Donc c'est important que ça soit dans une maison des jeunes et de la culture, en tout cas pour moi, parce que ça veut dire que même si on avait cette passion de cet art contemporain qui était l'art vidéo, il y avait aussi un souci de défendre des valeurs, les valeurs d'éducation populaire. Je vais passer très vite sur l'histoire, mais le festival naît en 88, donc s'intéresse à des formes d'écriture vidéo expérimentale en provenance du monde entier, soit sous forme de film, soit sous forme d'installation vidéo. Et très très vite, un peu par hasard, vous savez, le hasard des rencontres a fait que nous nous sommes retrouvés très vite plongés dans la Méditerranée, puisque en 1993, je me retrouve au départ juste pour animer un stage dans une université à Casablanca. Ça, c'était en 92. Et en 93, avec cette université, nous cofondons le premier festival d'art vidéo du Maroc. Et après, on a découvert que c'était même le premier festival d'art vidéo du continent africain. Voilà, j'ai accompagné ce festival jusqu'en 1999, et ensuite il est devenu autonome. Maintenant, il est Majid Sadati qui assure la direction artistique. Mais moi, je continue à les aider, à les accompagner, parce que c'est une aventure absolument extraordinaire. Et puis, les années passent, et je crois que cette histoire marocaine, peut-être par le téléphone arabe, quoi, on a commencé à savoir qu'on avait accompagné un festival là-bas. Et petit à petit, on s'est retrouvés aussi à accompagner des nouveaux festivals dans différents pays, en Syrie, à Damas, avec une organisation qui s'appelle All Art Now, et puis aussi en Palestine, où en 2009, on a créé le premier festival d'art vidéo de Palestine avec la Katan Foundation.
Avant que Marc nous raconte ce festival, parce que c'est passionnant, moi je peux vous le dire, une petite chanson palestinienne de Rim Bana, on l'a déjà entendue, mais elle est vraiment très belle, elle s'appelle Ya City. Donc pour mémoire, Rim Bana est une chanteuse, compositrice, arrangeuse et activiste palestinienne, née en 66 à Nazareth et morte en 2018, nous en avions parlé. Donc Rim Bana, Ya City.
Ya City. غاب القمر جيت انت غاب القمر ونجومه ضويتي علينا انت هي وهي وهي لي يا غزلان البري وكل من يوقع بالشد وينده يا باتولي بتولي راحت عالشام لاقوها كل العرسان يا عارس هدي خيلك حتى تفكفك حناها ويا بياع العناب والعنابي خطفوني الغجار من تحت خيمة مجدلي والتيشتشي والتيشتشي والخوخ تحت الميشمشي وكل ما هب الهوى لقطف لا ريما ميشمشي ريما ريما الحندقة شعرك أسود ومنقة واللي حبك بيبوسك واللي بغدك شو بيتلقى هي وهي وهي لينا دستك لجنك عيرينا تنغسل أواعي ريما ننشرهن على الياسمينة.
Marc, donc tu nous as mis l'eau à la bouche. Continue à parler de ce festival que vous avez organisé en Palestine.
Bah, peut-être raconter un peu comment ça a démarré, en fait, avec Naïk Msili. Donc en 2007, on se rend à Gaza pour montrer des films, faire connaissance. Du coup, c'était un moyen pour rentrer en contact avec... non seulement un public à Gaza, mais aussi rencontrer des artistes de Gaza. Moi, j'étais très, très surpris, hein, parce que je connaissais pas bien je connaissais la situation de Gaza par des films, par des récits, etc. Mais j'étais loin d'imaginer qu'à Gaza, dans le contexte actuel, il puisse y avoir des gens qui s'intéressent à l'art vidéo. Je sais pas pourquoi, je me disais, quand on vit dans une telle situation dramatique, on doit faire. Si on fait des films, on fait des documentaires pour montrer, dénoncer une situation. Mais voilà que je me retrouve à discuter avec des Gazaouis sur des questions rythmiques, sur des questions poétiques. Je me dis ça alors. Pour moi, c'était. Bon, après, ça m'a paru normal, mais je me suis dit c'est incroyable, quoi. Et ensuite, nous nous rendons à Ramallah et. On fait pareil, on fait aussi une programmation, on rencontre différents acteurs de la vie artistique et culturelle de Ramallah. Voilà, on y va une ou deux fois, je crois, avant. Et puis, à un moment donné, donc on a un rendez-vous avec les responsables d'une organisation très importante qui s'appelle la A.M. Katan Foundation, qui est basée à Ramallah. Qui sont des gens qui extraordinaires, enfin, qui font tout un travail pour soutenir les artistes contemporains palestiniens. Et ils nous font savoir qu'en fait, ils seraient intéressés que soit organisé en Palestine un festival d'art vidéo. Et donc, ils me demandent si je suis prêt à me lancer dans l'aventure. Et je me souviendrai toujours de cette rencontre où... Voilà, moi je venais de découvrir sur le terrain la situation des Palestiniens et je leur dis, mais vous n'avez pas d'autres priorités, d'autres urgences que d'organiser un festival d'art vidéo. Et là, ils me répondent qu'en fait, ils voudraient qu'il se passe quelque chose de normal. Et faire un festival d'art vidéo, comme on peut le faire à Marseille, à Paris, à New York, que ça puisse avoir lieu aussi à Gaza et à Ramallah, ça serait quelque chose de normal. Et moi, c'est un mot qui m'a un peu bouleversé, parce que de par ma culture un peu révoltée, le mot normal, c'est pas un mot qui résonne bien dans ma tête habituellement. J'ai toujours lutté contre la normalité. Je trouve que la poésie, c'est ça aussi, c'est lutter contre ce qui est normal, contre les normes, les remettre en cause, les saper un peu à la base pour essayer d'imaginer d'autres façons de vivre et de penser. Et donc la normalité, pour moi, c'était un peu quelque chose de réactionnaire. Et là, tout d'un coup, je découvre que dans certains contextes, faire quelque chose de normal, c'est révolutionnaire. À un endroit où rien n'est normal, eh ben, faire un festival d'art vidéo, comme on pourrait le faire n'importe où ailleurs, c'est quelque chose de normal. Et c'est comme ça que, voilà, sur cette base, que on a fondé donc ce festival qui s'appelle Cine, et qui est très vite devenu une biennale, en fait, hein, qui a lieu tous les deux ans, puisque c'est une biennale. La dernière édition aurait dû avoir lieu l'an dernier, mais ça a été, et ça devait être un hommage au poète et à Mahmoud Darwish, mais ça a été décalé. Donc j'espère que 2022, on va pouvoir rattraper le coup.
Dis-nous comment se passait le festival. Moi,
Alors, dans un premier temps, je veux dire, il se passait normalement. C'est-à-dire que... C'est-à-dire qu'on avait un peu reproduit la façon dont on le faisait à Marseille. C'est-à-dire exposition d'installations vidéo dans des salles un peu spécifiques. Il y a des galeries à Ramallah, donc on a pu occuper comme ça des lieux. Et puis des programmations de films. Mais très très vite, nos partenaires, quand on a fait des bilans ensemble, on s'est perçu, mais c'est un peu le problème partout, sauf que pour eux, il y avait urgence à ce que les choses se passent autrement, c'est que ça ne touchait que, on va dire, une élite de gens déjà cultivés. Donc comment faire pour élargir les publics? Donc il y a plusieurs méthodes, mais là, ce qui a été choisi, c'était d'investir l'espace public. Donc, à part quelques événements qui peuvent avoir lieu dans une salle avec projection, mais la plupart des œuvres, par exemple, que nous présentons sous forme d'installation sont dans des boutiques, dans des magasins, des rues de Ramallah, et ça fonctionne très bien parce que donc il faut choisir effectivement des œuvres qui peuvent être adaptées à ce genre de contexte. Mais c'est extraordinaire de voir tout d'un coup les gens se promener dans la rue, tout d'un coup être attirés par des choses étranges qui se passent dans des magasins, dans la vitrine, etc. Et puis, pour qu'il y ait en même temps un peu d'action et provoquer aussi des débats, on invite des performeuses, enfin je dis performeuses parce que la majorité ça a été des femmes, mais il y a aussi des hommes, qui font des performances dans la rue. Et là, aussitôt, évidemment, ça déclenche aussi, une fois que la performance est terminée, ou même pendant, les gens se mettent à réagir, à parler, et ça crée comme ça des débats spontanés dans la rue. Voilà, donc ça, c'est un peu, j'ai envie de dire, actuellement, la spécificité un peu de ce festival. Après, il y a aussi donc, des événements qui peuvent avoir lieu dans une salle. Par exemple, dans la dernière édition... j'étais allé montrer là-bas le dernier film de Jean-Luc Godard. Vous savez que Jean-Luc Godard est un grand amoureux de la Palestine. Hein. Il avait dans le passé fait un film qui s'appelle Ici et ailleurs. Voilà, c'est toute une aventure la réalisation de ce film. Donc dans le cœur des Palestiniens, Godard résonne encore d'une manière encore très très forte. Et là, pour le dernier film, le livre d'images qu'a réalisé Jean-Luc Godard, quand j'avais entendu que ce film ne sera pas diffusé dans les salles de cinéma habituelles, que Godard voulait que ce film soit désiré par ceux qui voulaient le montrer, et qu'il fallait donc entamer une démarche un peu particulière pour obtenir l'autorisation de montrer le film, grâce à l'entremise de Nicole Brenez qui m'a permis de me rapprocher de Jean-Luc Godard, j'ai pu lui faire savoir que je connaissais des gens qui aimeraient très certainement montrer son film, que c'était les amis de Ramallah et de Gaza. Donc évidemment, dès le lendemain, j'avais une réponse favorable. Et on a pu montrer le film donc à Ramallah, on a pu le montrer à Gaza, et ensuite on l'a montré aux instants vidéo à Marseille, en présence de Leïla Chaïd, qui était venue accompagner l'événement.
t'en fais des souvenirs, Marc, pour ta retraite. Donc, une deuxième chanson, alors une chanson féminine, hein, vous devinez que Marc a choisi des chansons féminines. Donc, c'est une chanson de Nam Marghouti. Je ne vous dis pas le nom parce que je n'arrive vraiment pas à le prononcer. Rajin, Naim Marghouti.
إن سألت القدس على أولادها قولولها أولادك بالشيخ جراح وإن سألت غزة على نهارها قولولها ما ضلل إلا نزاح إن سألت القدس على أولادها قولولها أولادك بالشيخ جراح إن سألت غزة على نهارها قولولها ما ضل
d'aller chercher la chanson sur YouTube pour savoir la fin. Voilà. Parce que la fin, je vais quand même bien interviewer Marc, on profite. Donc, on a parlé des festivals au Maroc, en Palestine, mais aujourd'hui, et encore jusqu'au 15 février, il y a la dernière exposition à la Friche de la Belle de Mai. Marc, dis-nous en dis deux mots et donne-nous envie d'y aller.
Oui. Bon, d'abord, c'est plusieurs fois que tu, Claire, que tu dis que je suis à la retraite. Je ne suis pas à la retraite. Hein. Je me suis mis en retraite des instants vidéo pour des raisons à cause de désaccords voilà, assez profonds. Donc, j'ai trouvé que c'était nécessaire que je prenne du recul et que je puisse continuer mes activités ailleurs et autrement. Et donc j'ai pu accompagner ce dernier festival, et donc c'est les 34e instants vidéo. Et dans ce cadre-là, il y a donc une exposition qui, comme tu viens de le dire, qui est encore visible à la Friche de la Belle de Mai. C'est gratuit, les entrées, jusqu'au 13 février. Donc c'est une exposition qui s'intitule « Avis de passage ». Parce que j'ai réfléchi, il y a eu toute une réflexion autour de cette notion de passage grâce à l'entremise du philosophe Walter Benjamin, qui a énormément travaillé sur cette question. Et parmi les œuvres, parce que je pense que c'est surtout de ça dont on va parler, puisque le sujet c'est la Palestine, il se trouve qu'il y a une œuvre d'un artiste de Palestine qui s'appelle Hassan Daragmeh, et cette œuvre s'appelle The Door. Donc c'est un seul écran où l'on voit en tout petit, étage par étage, on voit un homme qui ouvre une porte, et une fois qu'il a fini d'ouvrir cette porte, il passe le seuil, donc on a bien un passage, sauf que de l'autre côté de la porte, il y a encore une porte. Et puis une deuxième, et puis une troisième, une quatrième, etc. etc. Et ça va monter comme ça, d'étage en étage. Et quand on arrive tout en haut de l'écran, où toutes les portes ont été ouvertes, eh ben, il va dans l'autre sens, il va les refermer, il va reculer, Voilà. Et ça, c'est en boucle. Ça ne s'arrête jamais, c'est un peu comme Sisyphe, qui monte sa pierre, et puis la pierre, elle va redescendre, il va falloir la remonter. Et le rythme avec lequel ces portes s'ouvrent et se ferment, c'est le rythme du cœur. Hassan a vraiment travaillé sur ce rythme-là. Donc c'est quelque chose de très, nous spectateurs, de très organique. Parce que, bon, même si on ne le réalise pas consciemment, en tout cas, c'est un rythme qui est très proche de nous. Donc c'est très, très physique. Alors, on pourrait, dans un premier temps, quand on regarde ce travail, qui, si on pense à la Palestine, à tous les combats que mène la Palestine pour ouvrir des portes, ouvrir des murs, on se dit que c'est un peu désespérant, puisque à chaque fois qu'on ouvre une porte, il y en a encore une derrière, et ça ressemble bien à ce que vivent nos camarades en Palestine. Mais en même temps, ce qui leur ressemble aussi, c'est, j'ai envie de dire, ce côté obsessionnel. C'est-à-dire, malgré les échecs, malgré les défaites, malgré le manque de réelles perspectives de libération de la Palestine, ils continuent, ils ne désespèrent pas. Ou alors, ils sont au-delà du désespoir. Et en pensant à ce travail, tout à l'heure, j'ai noté, je trouve que ça ressemble bien à cette vidéo et ce combat obstiné des Palestiniens. J'ai noté une phrase tirée des Misérables de Victor Hugo. Et je trouve que c'est vraiment eux. Où il dit « Tenter, braver, persister, persévérer, s'être fidèle à soi-même, prendre corps à corps le destin, étonner la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait, tantôt affronter la puissance injuste, tantôt la victoire ivre, tenir bon, tenir tête. » Moi, je trouve que là, on dirait que Victor Hugo est allé en Palestine. Hein, il a dû les rencontrer.
Sûrement. Sûrement. Marc, un nouveau rebondissement dans cette émission. Le 29 octobre, avec Émilie et mon amie Marie-Hélène, nous avons proposé une émission « Une heure en Palestine » sur l'exposition de l'artiste palestinien Tazir Batnidji au Maghval à Ivry. Et quand nous avons préparé l'émission d'aujourd'hui, Marc m'a proposé de parler aussi de cette émission, de cette exposition. Je me suis dit que ce serait peut-être intéressant, après notre vision féminine à trois voix, d'entendre la vision de Marc et d'en profiter pour lancer un vibrant appel au MUCEM pour qu'il accueille lui aussi une exposition de cet artiste palestinien en exil, de cet artiste méditerranéen exceptionnel. Marc, dis-nous ta vision de l'exposition de Tazir Madidji au Maghval à Ivry.
Bon, déjà, j'étais très heureux pour Tazir qu'enfin il puisse y avoir une structure de cette importance et avec un grand espace qui offre à cet artiste donc la possibilité de présenter une rétrospective. Il n'y a pas tout son travail, mais il y a quand même une rétrospective importante qui nous permet vraiment de nous faire une idée de son parcours, puisqu'on y voit aussi bien son travail photographique, son travail d'installation plastique et aussi vidéo. Et je trouve que même la façon dont l'exposition a été agencée, il y avait quelque chose de... En même temps, on n'est pas envahi par le travail de Tazir, parce que Tazir ne fait pas d'œuvre monumentale, c'est pas un matu-vu, c'est quelqu'un qui travaille sur le sensible, et puis sur des... comment on pourrait dire, les petites choses, les petits riens aussi de la vie. D'ailleurs, le titre de l'exposition qu'il a choisi, qui est un titre qu'il a emprunté à Georges Perec, c'est « Quelques bribes arrachées au vide qui se creuse ». Voilà. Moi, j'adore ce genre de titre, parce qu'on ne comprend pas vraiment ce que ça peut vouloir dire à première vue, et puis quand on la relit... On commence à se dire, ah ben oui, peut-être que ça parle aussi de moi, parce que moi aussi j'ai des bribes arrachées, j'ai des petits creux, j'ai quelque chose... voilà. Et tout à coup on se retrouve très très proche de Tazir. Et donc on y voit quoi dans cette exposition? On y voit évidemment des choses qui peuvent être perçues comme très politiques, parce qu'il nous parle de l'exil... Mais il nous parle aussi de l'exil intérieur, il nous parle aussi de comment, de son intimité. Il y a d'ailleurs tout un travail photographique où ce sont, je ne me rappelle plus s'il a donné un titre, peut-être ça s'appelle Sans titre, où ce sont des images qu'il a prises à Paris en tant qu'exilé, et de ses proches, de lui-même. Mais c'est quelque chose qui, à chaque fois, témoigne d'une souffrance et en même temps voilà, de ce qui caractérise Taïsir, c'est témoigne aussi d'une espèce de force incroyable. Quand on... Il y a une œuvre, moi, qui m'a beaucoup touché, c'est celle où on le voit faire une performance absolument incroyable, où il est avec une pelle, il y a un tas de sable, et il déplace ce tas de sable pour refaire un autre tas de sable. Mais la vidéo n'est pas en boucle, c'est qu'il va faire ça, et parce qu'une fois qu'il a fait le deuxième tas de sable, il va recommencer à redéplacer le tas de sable, et il va jusqu'à l'épuisement. Et quelque part, la vidéo The Door dont nous venons de parler, là, qui est exposée aux instants vidéo, pour moi, elle raconte la même chose. Parce qu'à un moment donné, quand vous êtes en perpétuelle défaite, j'ai envie de dire, en tout cas de défaite politique, où les choses ne semblent pas vraiment avancer, même le semblent s'aggraver. C'est rare qu'on voit les choses s'aggraver comme ça, je veux dire... La Palestine ne ressemble plus à rien aujourd'hui. Hein. C'est une espèce de quand on regarde la carte avec toutes les colonies, c'est une espèce de puzzle, mais dont les pièces ne se touchent même plus. Enfin, il y a quelque chose de complètement surréaliste. Et il reste quoi ? Ben, il reste l'entêtement, il reste cette espèce d'acharnement à maintenir à tout prix la vie. Et d'ailleurs, quand on arrive à la fin de l'exposition, qu'est-ce qu'on y trouve ? On y trouve un tas de savons. D'ailleurs, le public peut partir avec l'un des savons. Et sur chaque savon, il y a... Donc le savon, c'est quand même l'objet du changement. Hein. On peut se nettoyer avec, on peut se refaire une peau neuve. Donc il y a quelque chose de très, très positif, très enthousiasmant dans le savon. Et... Il y a un mot écrit en arabe qui veut dire, donc en français, « aucune condition n'est permanente ». Et je trouve que c'est extraordinaire, parce que la visite de l'exposition nous fait un peu souffrir quand même, si on a de l'empathie pour ce qui est de ce que l'on peut déceler derrière chaque œuvre de la réalité. Sociale, politique et individuelle. Enfin, il y a quelque chose de tragique, même si Taïsir n'est jamais dans la plainte. Et voilà, tout d'un coup, on arrive comme ça au bout de ce parcours et on ramasse un savon. On peut le sentir, on peut ensuite le ramener chez soi. Moi, j'en ai ramené un, j'ose pas me laver avec. Enfin, je le regarde et je me dis chaque matin... Aucune condition n'est permanente. Je veux dire, un jour ou l'autre, les choses changeront. Quoi. Peut-être que ce n'est pas notre échelle, mais un jour ou l'autre, les choses changeront. Et la Palestine, peut-être, deviendra un jour un lieu où il fera bon vivre.
Nous l'espérons. Marc, vraiment, nous sommes très, très heureux de t'avoir accueilli aujourd'hui. Et alors, pour te remercier, un petit cadeau. Émilie va nous lire un texte que tu nous as fait découvrir. Un très, très beau texte de Rafef Zadia qui s'appelle « Nous enseignons la vie ». Et c'est toi qui nous l'as fait découvrir. Et c'est Émilie qui va nous le lire.
Aujourd'hui, mon corps était un massacre télévisé. Aujourd'hui, mon corps était un massacre télévisé censé ne pas aller au-delà des brèves citations et des limites des mots. Aujourd'hui, mon corps était un massacre télévisé censé ne pas aller au-delà des brèves citations et des limites des mots suffisamment rempli de statistiques pour s'opposer à une riposte mesurée. Et j'ai peaufiné mon anglais, et j'ai appris mes résolutions de l'ONU. Et pourtant, il m'a demandé. Mademoiselle Ziada, vous ne pensez pas que tout serait résolu si vous cessiez au moins d'enseigner toute cette haine à vos enfants ? Pause. J'ai cherché en mon fort intérieur la force d'être patiente. Mais la patience n'est pas au bout de ma langue pendant qu'il largue des bombes sur Gaza. La patience vient précisément de m'échapper. Pause. Sourire. Nous enseignons la vie, monsieur. Rafi, n'oublie pas de sourire. Pause. Nous enseignons la vie, monsieur. Nous, Palestiniens, enseignons la vie après qu'ils ont occupé le dernier ciel. Nous enseignons la vie après qu'ils ont bâti leur colonie et leur mur de l'apartheid, au-delà des derniers cieux. Nous enseignons la vie, monsieur. Mais aujourd'hui, mon corps était un massacre télévisé, censé ne pas aller au-delà des brèves citations et des limites des mots. Et ne nous donner qu'un récit, un récit humain. Vous comprenez, ceci n'a rien de politique. Nous voulons seulement parler aux gens, de vous et de votre peuple, et faites-nous donc un récit humain. Ne mentionnez pas ces mots, apartheid et occupation. Ceci n'a rien de politique. Vous devez m'aider, moi, en tant que journaliste, à vous aider à raconter votre histoire qui n'a rien d'une histoire politique. Aujourd'hui, mon corps était un massacre télévisé. Que diriez-vous de nous parler de l'histoire d'une femme de Gaza qui a besoin de médicaments ? Ou de nous parler de vous ? Avez-vous suffisamment de membres aux os brisés pour couvrir le soleil ? Passez-moi vos morts et donnez-moi la liste de leurs noms sans dépasser les 1200 mots. Aujourd'hui, mon corps était un massacre télévisé, censé ne pas dépasser les brèves citations et les limites des mots, mais émouvoir ceux qui sont devenus insensibles au sang terroriste. Mais ils se sont sentis désolés. Ils se sont sentis désolés pour le bétail à Gaza. Et ainsi donc, je leur donne les résolutions de l'ONU et les statistiques, et nous condamnons, et nous déplorons, et nous rejetons. Et ce ne sont pas deux camps égaux, l'occupant et l'occupé. Et 200 morts, et 100 morts, 200 morts, et un millier de morts. Et entre ce crime de guerre et ce massacre, je crache des mots et je souris sans rien d'exotique, rien de terroriste. Et je recompte, 100 morts, un millier de morts. Il y a quelqu'un là-dedans ? Y aura-t-il quelqu'un pour écouter ? Je voudrais pouvoir pleurer sur leur corps. Je voudrais pouvoir courir pieds nus et dans chaque camp de réfugiés et prendre à bras tous les enfants, couvrir leurs oreilles pour qu'ils ne doivent plus jamais entendre le bruit des bombes le reste de leur vie, comme moi, je l'entends. Aujourd'hui, mon corps était un massacre télévisé. Et permettez-moi de vous dire ceci, rien que ceci. Rien, vos résolutions de l'ONU n'ont jamais rien fait à ce propos. Et aucune de mes brèves paroles, aucune parole que je sortirai, et qu'importe que mon anglais s'améliore, aucune parole, aucune parole, aucune parole, aucune parole ne les ramènera à la vie. Aucune parole ne fera cela. Nous enseignons la vie, monsieur. Nous enseignons la vie, monsieur. Nous, Palestiniens, nous éveillons chaque matin pour enseigner au reste du monde la vie. Monsieur.
Merci, Émilie, ouais. C'est magnifique.
Très bien. Et toi, ce qu'il y a d'extraordinaire, je trouve, chez beaucoup d'artistes en Palestine, c'est à la fois c'est tragique ce qui est raconté et en même temps, il y a de l'humour. Et ça, c'est une force absolument époustouflante.
Merci, Émilie. Donc, pour terminer cette émission, la troisième chanteuse qu'a choisie Marc, c'est une chanteuse palestinienne qui est joueuse d'oud et de kanoun. Elle s'appelle Camilla Joubran et c'est l'une des figures les plus contemporaines et les plus singulières de la musique arabe moderne. Donc, la chanson que Marc a choisie, elle est écrite et chantée par Camilla Joubran et Werner Hassler et elle s'appelle « Wadi ». Alors, on revient à l'antenne, excusez-nous. Marc, on parlait entre nous de l'humour des Palestiniens, on parlait entre nous de la Palestine, de notre engagement pour la Palestine. Comment, Marc, tu l'analyses avec le recul, c'est l'importance de la vie culturelle en Palestine?
Tu sais, quand on a fait la première inauguration du festival, j'oublierai jamais ce qu'a dit le directeur du centre Khaled Sakakini, qui est un centre culturel de Ramallah. Il a déclaré que l'art vidéo sera, comment il avait dit déjà, une force de création massive. Voilà. À l'époque, on parlait beaucoup de forces de destruction massive. Et il disait, voilà, oui, grâce à ce festival, nous allons montrer que l'art vidéo est une puissance de création massive. Moi, je me disais, mais qu'est-ce qu'il raconte, quoi? Voilà, c'est cette espèce d'humour à tous les endroits. Je trouve que c'est ça qui est magnifique.
Ah bah écoutez, sur ces paroles d'humour, nous terminons cette émission. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain de 18h à 19h sur Radio Galère. Bonne soirée.
Bonsoir et merci.
Bintishalabi.